mélodie souterraine. L'émission de la médiathèque Maurice Genevoix sur Studio Zef avec Jérôme et Thomas.
Attends.
Laisse tourner le vinyle.
Bienvenue dans Mélodie Souterraine, deuxième numéro de cette nouvelle émission mise en place par Jérôme de la médiathèque Maurice Genevoix à Blois. Salut Jérôme.
Salut Thomas.
Ravi de te retrouver pour cette deuxième édition émission.
De même.
Tu as replongé entre les deux mois qui séparent ton émission dans les entrailles des bibliothèques à Glopolis pour nous ressortir une petite sélection de CD, des supports physiques. On en a ici, là, j'en ai devant les yeux. Et tu vas nous présenter donc une heure de musique.
Complètement. Voilà, je suis donc descendu pour faire une sélection et waouh, je me suis dit, mais enfin, il n'y a que l'embarras du choix, évidemment. C'est assez impressionnant. Et donc pour aujourd'hui, une nouvelle fournée, nouvelle contrée sonore que nous allons découvrir au fur et à mesure de l'heure.
On commence avec quoi ?
On débute avec une musicienne, compositrice, je dirais improvisatrice, qui se nomme Judy Dunaway. Et voilà, c'est une dame hautement diplômée qui a étudié la musique de fond en comble et qui s'est pris par ailleurs de passion pour le ballon. Alors le ballon, enfin le ballon gonflable.
Elle pose avec une jolie baudruche sur la couverture de son album, ouais.
Exactement. Et du coup, elle a trouvé, enfin en tout cas, elle estime que le ballon
est un instrument.
Est un instrument exploitable et elle en tire des sonorités assez improbables. Alors soit tout en soufflant dans le ballon et donc en alternant
un jeu d'enfant devenu exercice rigoureux et musical.
Complètement. Et aussi une fois le ballon refermé, en tout cas voilà, elle peut jouer aussi le ballon comme une percussion, c'est-à-dire avec ses doigts.
Évidemment, ouais. Voilà. C'est pareil, on l'a tous fait.
Oui, comme un jeu d'enfant, sauf que elle a étudié la musique vraiment en profondeur, donc elle écrit aussi des compositions, des œuvres pour ballon. Et là, l'extrait qu'on va écouter, c'est en trois mouvements, donc on va pour l'heure se contenter du premier, mais c'est une œuvre en effet écrite pour ballon et quatuor à cordes.
réglez pas votre poste. Vous êtes bien sur Studio ZEF dans l'émission Mélodie Souterraine. Jérôme, alors je découvre hein, tes supports et tes choix en même temps que les auditeurs et les auditrices. Tu commences par un choix très audacieux. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, voilà, oui, ce sont des formes assez... En tout cas, des univers assez inhabituels et qu'on a certainement peu l'habitude d'entendre sur les ondes. Mais voilà, ça fait partie du paysage musical. Et puis, je crois que ce sont des approches où, en effet, peut-être au préalable, pour apprécier pleinement, en tout cas, le mieux possible, ce genre d'univers, ouais, je pense qu'il faut vraiment ne plus avoir de repères forcément, on va dire comme... lâcher prise quoi, et puis se laisser embarquer. Alors ça peut paraître assez troublant, mais faut savoir que c'est réellement écrit, hein. c'est pas une forme comme ça jouée par-dessus la jambe.
Ouais, ouais, ça sent l'exercice extrêmement rigoureux hein, malgré tout. Donc voilà, on a donc découvert Mother of Balloon Music, qui est la mère donc de la musique ballonique. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est pas très joli, mais c'est ainsi que s'appelle donc l'album de Judy Dunaway, qui fait donc de la musique avec de la baudruche. On passe à quelque chose qui va peut-être rassurer les auditeurs et les auditrices. On va revenir à des choses plus familières.
Enfin, en même temps, il faut pas s'inquiéter. par ailleurs, on va aussi poursuivre un peu dans des mondes comme ça, un peu parallèles, expérimentales. Là, en l'occurrence, j'évoque Phil Klein. Alors Phil Klein, pareil dans le sens où c'est aussi un compositeur contemporain. Et lui, alors ne pratique pas le ballon, mais la guitare. Et... autre exemple, il y a des guitaristes un peu dans cette même veine, alors peut-être pas plus connus d'un plus large public, mais je pense à Roger Clayer, Paul Drescher ou Elliot Sharp. Phil Klein, voilà, joue de la guitare, mais de manière assez peu conventionnelle, et explore des territoires assez inédits. Là, pour le coup, cet album-là, il y a un concept, c'est-à-dire que l'album en question s'appelle Zippo Songs.
Chanson de briquet, chanson de Zippo.
Mais en fait, pourquoi ? Parce que il est parti... en fait, quand il y a eu la guerre au Vietnam, les GI américains avaient une pratique qui était sur leur temps, où ils étaient un peu en repos, pouvaient taguer, en tout cas inscrire des poèmes sur leur briquet Zippo. Donc, après que la guerre soit terminée, il y a eu une récolte de tous ces briquets. Et en fait, toutes les inscriptions sur les briquets ont été regroupées. Et en fait, c'est souvent sous forme de bribes de poésie. Mm-hmm. Et donc, Phil Klein a regroupé des textes selon des thématiques. Alors souvent ça évoque, évidemment c'est la guerre, donc ça évoque souvent l'enfer, la mort. Et il est parti en tout cas de cette matière-là, littéraire presque, et pour composer donc ces chansons. Enfin chansons, oui chansons, parce qu'en effet il y a une voix, pas n'importe laquelle d'ailleurs. Il y a Théo Blackman qui récite qui chante, qui est un incroyable acrobate vocal. Voilà, donc... Là, pour le coup, nous allons écouter la composition qui s'appelle « Ours is Not ».
L'album donc s'appelle Zippo Songs, et le sous-titre de l'album, effectivement, comme tu le précisais, s'appelle le sous-titre, c'est chanson de guerre et d'humeur, ce qui donc indique effectivement l'état d'esprit des soldats qui procédaient à cet exercice.
Ours is not to do. Ours is to smoke and stay high. In life we are
Klein, Zippo Songs, chanson de guerre et d'humeur.
Je rajouterais que, aussi, pour les deux premiers albums, les deux premiers extraits, sont issus aussi d'albums parus sur des labels. Alors, le label, en fait, c'est aussi, aujourd'hui on en parle un peu moins parce que quiconque presque peut faire son album, son disque, mais il fut un temps, mais ça perdure quand même, mais qu'il pouvait y avoir un producteur féru qui montait sa propre maison de disque avec vraiment une ligne éditoriale assez marquée et qui permettait aussi de découvrir bien des choses. Et là, en l'occurrence, pour les deux premiers extraits, donc pour le premier album, c'était paru chez Innova, et ce second disque paru chez Cantaloupe. Et dans les deux cas, ce sont vraiment des labels très représentatifs de ce qu'on pourrait nommer musique dite nouvelle, musique contemporaine. Ouais. Et ce sont, en tout cas, pour moi, le label, c'est vraiment un excellent repère pour aussi découvrir des musiques.
Et là, pas besoin d'être anglophone pour saisir la poésie qui se dégage du morceau qu'on vient d'écouter. Effectivement, c'était très beau. Suivant.
On poursuit
malgré tout, on
avec alors je parlais de label. Là, justement, les deux titres qui vont venir sont issus de la maison de disques appelée JMT, qui aujourd'hui se nomme Winter & Winter, et qui dans les années 90, c'était vraiment à l'avant-garde, je dirais, de la scène jazz. Et là, on va débuter avec l'écoute d'un trio qui se nomme Miniature. Et alors, pour moi, c'est un trio époustouflant parce que il est composé de trois musiciens des plus singuliers, qui sont Tim Byrne au saxophone, Hank Roberts au violoncelle et Joey Barron à la batterie. Alors, soit on les écoute individuellement et on est saisi par leur invention de tous les instants, soit on écoute le groupe entier et c'est pareil, quoi, c'est un son d'ensemble phénoménal. Et ben, allons-y pour Miniature.
Allons-y pour tout ça.
Ah, pita! We'll be right back.
nous as emmené en voyage, Jérôme, avec ce morceau. On quitte le morceau sur une musicalité, une rythmique qu'on n'avait pas du tout à l'entame. On sent l'interprétation, les ruptures de ton, les changements de dynamique au sein du groupe qui prend le lead sur certains instruments, sur certains passages. C'est assez incroyable. Effectivement, on sent une entente, une synchronisation entre ces trois garçons assez étonnante.
Ah ouais, moi je suis toujours conquis et... Tu parlais de voyage, ouais. Là, j'ai voyagé. J'espère que les auditeurs le sont tout autant. Et c'est vrai que là, on entend aussi, il y a quelques pincées électroniques et puis des voix qui apparaissent. C'est d'ailleurs le violoncelliste qui peut vocaliser de temps à autre. Et c'est assez caractéristique aussi, cette forme musicale. On peut des fois avoir l'impression d'un espèce de zapping. Enfin, quand tu parlais de rupture,
Il y a au moins 3 ou 4 morceaux là dans les 4 minutes qu'on vient d'écouter.
Et c'était assez significatif à la fin des années 80 à New York, notamment avec un musicien, compositeur comme John Zorn, qui jouait beaucoup sur espèce de zapping musical. On passait d'une ambiance à une autre de façon assez abrupte, mais complètement.
Mais pas incohérente non plus.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Ça manque pas.
Miniature, donc l'album avec Joey Barone, Tim Byrne et Hank Roberts dans cet album.
Alors on continue avec une autre production sur ce même label donc, que je citais tout à l'heure, JMT.
Ouais,
aussi un nouveau trio, enfin autre trio, celui de Mark Johnson. Alors Mark Johnson, pour les amateurs, bon, qui est reconnu, enfin très connu même, comme contrebassiste, au même titre qu'un Gary Peacock, Charlie Haden par exemple, et qui là pour le coup, avec cette même formation, a sorti uniquement 2 albums, mais justement on parlait de voyage, et là on va aussi partir pour une destination, alors j'allais dire exotique, on n'est pas non plus dans la world music, c'est pas du tout surfait, bien au contraire, mais une espèce de monde imaginaire, et notamment grâce à la présence du percussionniste que je trouve phénoménal, qui s'appelle Arto Tumbayosan, qui est d'origine arménienne, et qui lui-même a fait bien d'autres, a participé à bien d'autres aventures musicales.
Et tout ça, ouais.
Voilà, donc allons-y, ouais. On écoute la première piste, They Love Me 15 Feet Away. Oh,
Mark Johnson, Right Brain Patrol, avec donc Ben Mander, et je me lance Arto Tunsboyasian.
Ouais,
je suis pas trop loin, je crois. Donc, percussionniste.
Ouais, quel délice.
Ouais.
Et en fait, moi, je crois que je n'arrêterai pas de le répéter au fur et à mesure, au gré du temps, mais là, on écoute un extrait, mais l'album entier se tient.
Ah bah là, je pense que les 48 minutes de l'album font voyager loin, ouais. loin.
On continue avec, alors pour le coup là, en tant que leader, mais un autre percussionniste incroyable qui s'appelle Ciro Batista, qui est brésilien et qui lui, depuis qu'il est sur scène, c'est-à-dire depuis les années 80, fait vraiment des grands écarts, c'est-à-dire qu'il est capable de jouer avec un expérimentateur, improvisateur comme le guitariste Derek Bailey, jusqu'à Herbie Hancock ou Paul Simon par exemple. Enfin, du coup, il est vraiment très, très féru d'aventures musicales. Et là, pour le coup, sous son nom, il a souhaité reprendre des compositions de Hector Villa-Lobos, qui est un compositeur de musique classique brésilien.
Ouais.
Et voilà, donc il reprend son répertoire, mais alors de manière assez réjouissante, avec beaucoup de couleurs, parce que il y a des invités sur cet album qui proviennent un peu d'horizons différents. Donc je propose d'écouter la première composition, Dança.
Para de ver.
Villa-Lobos, donc la musique de Villa-Lobos, jouée par Ciro Battista.
Et là, glissons sur dans les territoires plutôt rock. Et j'ai opté pour une formation. Alors, on est d'ailleurs encore dans un format trio, tiens. Morphine. Alors, Morphine, qui a éclos au début des années 90 et qui ont à leur compteur 5 albums.
Ça sent le grunge, non ? Je me
studio.
Trompe.
Ah, bah, il y a une énergie.
Rock en tout cas.
Ouais,
présente.
assez musclé. Sauf que la particularité de ce trio, c'est que. En lieu et place de la guitare, c'est un saxophoniste.
Ok.
Voilà, qui chorus comme pourrait le faire un guitariste,
ouais.
Mais avec la même énergie. Alors, ce groupe a fait 5 albums, mais en fait, le leader, qui est Mark Sandman, le bassiste, il s'avère qu'il est décédé sur scène, je crois, en 1994. Donc, c'est, évidemment, le groupe après s'est interrompu. Mais alors, ils ont vraiment un univers singulier, assez dingo. Donc on écoute le premier titre, Honey White.
Honey White, de l'album Morphine, alors du groupe Morphine, l'album s'appelle Yes.
You know I like to see a little more fat.
Le groupe Morphine sur l'album Yes, et le morceau s'appelait Honey White.
On évolue là au fur et à mesure vers des formes plus chantées, et là nous allons écouter un extrait d'un album de Golden Palominos. Alors j'ai choisi ce disque là en l'occurrence parce que il s'avère que le leader Anton Fear, qui est aussi batteur, est décédé là il y a 2-3 semaines à l'âge de 68 ans. Et en fait, c'est un batteur qui a commencé à jouer dans les années 80 avec un groupe dit indé qui s'appelait The Phillies. Il a aussi débuté avec les Lounge Lizards aux côtés de John Lurie. Et après, il a participé à la scène new-yorkaise en expérimentant beaucoup. Et notamment avec cette entité qu'il a nommée lui-même, donc Golden Palominos. Mais pour arriver justement... à partir de formes plus improvisées à des chansons, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est mis à écrire les textes et à convier notamment aux voix des chanteuses avec des voix assez évanescentes. Et là, pour le coup, le premier extrait de l'album, il s'avère qu'il a convié Michael Stipe, le chanteur de R.E.M.
Bien connu, le leader de R.E.M.
Donc c'est une musique, écoutons, c'est une ambiance assez vaporeuse.
À l'image du titre de l'album, puisque si tu parles de vaporeux, l'album s'appelle Drunk with Passion, donc dans une ivresse passionnante.
Voilà, donc Alive and Living Now.
C'est parti.
God.
The Golden Palominos featuring Michael Stipe, donc leader de REM. L'album s'appelle Drunk with Passion et on vient d'écouter Alive and Living Now.
Oui, une pensée pour donc le leader du groupe, Anton Fear, que j'ai longtemps écouté durant les années 90. Après, je pense qu'on l'a un peu oublié, enfin, voire même il a fini peut-être dans l'oubli. Et j'avais même lu... un commentaire en tout cas il y a déjà quelques années, mais comme quoi il faisait même des ménages dans des studios, enfin le ménage,
ah oui,
je dirais le ménage à nettoyer des studios à New York pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc,
c'est
voilà,
tout à ton honneur de le remettre en lumière.
Ouais. Donc le titre suivant, alors sous le nom Chocolate Genius, en fait c'est un faux collectif, c'est-à-dire qu'il en fait, derrière se cache un monsieur qui s'appelle Mark Anthony Johnson, mais qui convie aussi plein de musiciens à enregistrer avec lui. Le monsieur, en l'occurrence, est un Afro-Américain, mais qui est vraiment, je lisais qu'il avait été très très marqué par des groupes comme Cream dans les années 70. Enfin, il a vraiment baigné, Roxy Music également, enfin il a baigné dans le monde rock. Et du coup ça s'entend et sa musique est assez hybride. Alors on est dans un format chanson, mais où il allie vraiment avec finesse et de manière très habitée folk, soul, rock. Voilà, je dirais ça, pour faire court, c'est un peu, je le situerais un peu entre Jeff Buckley et Prince.
Voilà. Ok, ça fait des bonnes références.
Et
ça.
À savoir que ce même monsieur avait même été sollicité et il a tourné un bon moment avec Bruce Springsteen, qui l'a convié lors d'une tournée mondiale, parce que justement il était très très sensible à sa voix et à son approche musicale. Donc on écoute la chanson numéro 2 de l'album Black Music qui s'appelle Half Man.
Save you.
C'est très beau, Jérôme, ce que tu nous as amené là, là. Black Music. Effectivement,
ouais,
on sent de
Genius,
belles influences.
Qui a, qui a pas fait tant d'albums sous son nom, mais en même temps qui a fini. Enfin, fini. Il est toujours actif, le monsieur, mais il a dû enregistrer ses derniers disques sur un label français, d'ailleurs, qui s'appelle No Format.
C'est l'heure de terminer cette émission, Jérôme. On va conclure en musique avec un dernier album que tu nous as apporté. Avec quoi on conclut ce deuxième épisode ?
Du coup, en clôture, alors attention, c'est sévère.
Ouais, ça va vous secouer un peu ?
Ouais, mais en fait, il s'agit d'une bande originale de film. Le film en question, c'est Judgment Night. Bon, je pense que le film n'est pas d'une grande originalité. Ouais. C'est un film d'action assez, je dirais, assez anodin.
Par contre, la BO enchaîne les pointures de la scène hip-hop des années 90. Ouais.
Oui, mais pas que hip-hop. En fait, c'est une rencontre entre des groupes rock et
effectivement,
rap.
J'avais pas
et
vu.
Du coup,
ouais, que les rappeurs,
c'est vrai,
mais ouais.
Au tout début des années 90, ce genre de fusion, d'ailleurs, on a appelé ce courant rock fusion.
Ouais.
Fois, on pouvait lire dans la presse crossover.
Ouais.
Et donc, il y a eu une ribambelle de groupes qui ont mélangé ces deux genres. Et là, cette BO, elle
a l'air incroyable. Hein. Tu me donnes très envie de tout écouter. Sonic Youth, pour les citer, hein, Pearl Jam, House of Pain, De La Soul, Run DMC, Onyx. Je ne sais pas ce que tu vas nous mettre, mais Cypress Hill, je ne l'ai pas dit. Sonic Youth, je l'ai dit. Enfin bref, Dinosaur Junior, il y a du monde.
Ah oui. Mais elle est exceptionnelle. Elle a fait date, d'ailleurs, cette BO, bien plus que le film.
Le film
je pense
lui-même.
Qu'il est complètement passé aux oubliettes.
Ouais.
Mais cette BO, vraiment, elle est... Ouais, il y a aussi Slayer avec Ice-T. Enfin,
ouais,
des rencontres insolites et en même temps, ça fonctionne du tonnerre du début jusqu'à la fin. Alors, j'opte pour le premier, mais vraiment, toutes les autres collaborations sont à écouter. Alors, ce premier morceau, c'est la rencontre entre Helmet et House of Pain. House of Pain qui avait fait un tabac à l'époque avec un titre
Jump.
Ouais. Tout à fait. Et Helmet, le leader.
T'en dis quelque chose aussi, moi, Helmet.
Page Hamilton.
Ouais.
Et en fait, c'est lui qui a. Je dirais qu'il a inventé le riff métal dans le sens. Ce qu'on entend aujourd'hui dans le métal, le riff ou espèce de saccadé. Un peu comme si on empilait différents motifs.
Mm-hmm.
Et je pense qu'il en est à l'origine. Et voilà. Donc. Voilà, rencontre inouïe, fabuleuse. Le morceau s'appelle Just Another Victim.
On se quitte là-dessus, Jérôme. Au mois prochain, on se retrouve pour un nouveau numéro de Mélodie Souterraine. En attendant, la semaine prochaine, vous pouvez retrouver Mathias avec 4 à contre-courant et réécouter cette émission dans 15 jours sur notre antenne et évidemment quand vous voulez en podcast. Salut Jérôme,
salut,
au mois
Thomas.
Prochain. Self-start.
Cause how I robbed and raped you, bruised and scraped you. But those are just lies, cause in your eyes you've been victimized. That's how you size it up, you disguise it up and try to make it look real, to cover up the low self-esteem you feel. Introspection and afterthought, swimming in guilt's your favorite sport. But now you're caught up in the undertow. You never knew a man could sink so low, but now you know, cause you're John Doe. In a black bag, a tag on your toe. I built the house, I felt the pain. You victimized but got no one to blame. Just another victim. You're just another victim, kid. Just another victim. You're just another victim, kid. Holy diver, I'm a survivor. Feeling like De Niro in Taxi Driver with Jodie Foster and Harvey Keitel. Looks like I'm walking through a living hell. So spark that L and I'll get lifted. Feeling the effects of what must lift it. Cause I'm gifted, I read Sun Tzu. I brought a gun too, so you'll never come to. The weight of the world riding on my shoulders. Cause I'm a soldier, I thought I told you. You're just another victim. You're just another victim, kid. You're just another victim. You're just another victim, kid. You're just another victim.